Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie avec nos étudiants-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom est Marie-Christine et je co-anime ce podcast avec Stéphanie. Salut Steph!
Allô!
Pour notre deuxième épisode, on a reçu une invitée qui travaille sur les milieux humides. Puis je peux dire que sa passion est assez contagieuse.
C'est vrai. On a reçu Audrey-Anne Loisel. Audrey-Anne fait son doctorat à l'Université de Montréal dans le laboratoire de Stéphanie Pellerin au Jardin botanique. On a parlé de services écologiques que nous rendent les milieux humides, de biodiversité et particulièrement de son projet de recherche qui cherche à quantifier les services que rendent les différents milieux humides. Parce que pas tous les milieux humides rendent les mêmes services écologiques. Et en plus, il y a les changements climatiques qui viennent altérer tout ça.
D'ailleurs, Audrey-Anne n'était pas son premier podcast, si je peux dire ça.
Non! En fait, elle a fait plusieurs activités de vulgarisation durant son parcours, dont une contribution audio au concours de vulgarisation de l'ACFAS, qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir. Et ça, c'était l'été dernier, donc en mai 2021. Mm-hmm. L'enregistrement qu'elle a fait est simplement magnifique. Ça s'appelle « La symphonie des milieux humides ». Et c'est tous les sons d'oiseaux, d'insectes qu'elle a enregistrés elle-même dans les milieux humides durant son terrain. Et apparemment, les rainettes chantaient tellement fort qu'elle ne s'entendait même pas parler avec sa stagiaire.
Ouais, puis même dans l'enregistrement, je pense qu'on entend les lucioles. Et moi, je vous invite à l'écouter ces 4 minutes de pure douceur et de vulgarisation scientifique à son meilleur. Moi-même, je l'ai écouté plusieurs fois. Puis Audrey-Anne, elle a même remporté un prix pour cet enregistrement audio-là. Puis je vais vous mettre le lien dans la description, mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter.
Ça met bien la table à tout ce qu'on va discuter en profondeur dans l'épisode.
Oui, justement, allons-y. Puis je vous invite aussi à suivre la page Facebook de notre association étudiante, les biologistes-chercheurs de l'Université de Montréal. Et aussi, plus spécifiquement, notre page Instagram, les Lucioles Podcast.
Bonne écoute!
Audrey-Anne, bienvenue au podcast Les Lucioles.
Ben merci.
Ben merci à toi d'avoir accepté notre invitation pour parler des milieux humides, parce que c'est vraiment un sujet chaud, si je peux dire, autant en biologie qu'en politique, ou même pour le développement immobilier.
Mm-hmm. Oui.
Avant qu'on rentre dans le vif du sujet des milieux humides, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de ton parcours. Comment tu t'en es rendu là?
Oui, ben... Contrairement à peut-être beaucoup de gens en sciences là, qui disent « Ah oui, moi j'ai toujours un grand amour là, pour la nature, etc. » depuis la tendre enfance. Moi, je suis montréalaise, donc je suis née à Montréal, j'ai toujours habité là. Et en étant enfant, j'avais aucun contact avec la nature. J'allais pas dans le bois avec mes parents, on faisait pas d'activités de ce genre-là. Donc j'ai eu peut-être un peu une carence là, en milieu naturel là, quand j'étais jeune, qui s'est manifestée un peu plus tard. Ma première expérience avec la bio, c'est au secondaire, dans un stage que j'avais fait dans les marais des îles de Boucherville avec une étudiante de l'Université de Sherbrooke qui travaillait sur un projet vraiment cool, l'impact de la phragmite, qui est une espèce exotique envahissante, mm-hmm. sur la reproduction du brochet dans les îles de Boucherville. Mm. Puis j'ai vraiment profondément détesté mon expérience.
Oh ouais. Déjà là, au secondaire, t'avais un intérêt qui finalement t'a refermé la porte tout de suite après?
Oui. T'sais, au secondaire, c'est pas les mêmes choses nécessairement qui vont nous intéresser. Puis moi, de me faire mettre dans un suit One Piece Mustang dans un bateau qui sent le gaz aux frettes à ramasser des œufs de poisson dans le fond de l'eau, je trouvais ça moyen comme activité. Puis c'est drôle parce que ce projet de recherche-là était entre autres dirigé par Jacques Brisson, qui est chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est l'endroit où je travaille depuis 5 ans et demi, et quelqu'un avec qui je collabore très souvent. Puis je lui avais montré le petit article qui avait été écrit sur cet événement-là, puis il a trouvé ça bien drôle.
Ça avait été publié dans le journal ou quoi?
C'est un article en ligne qui avait été publié pour montrer qu'est-ce qui se faisait dans ce domaine-là de recherche, puis comme quoi il faisait du... Il allait chercher des étudiants pour éveiller des passions. C'est vraiment le mot qu'ils ont utilisé, éveiller des passions. Et moi, qui m'avais ce si mauvais souvenir de mon aventure avec ma petite photo de face de fille de 14 ans qui n'a pas de fun, tu sais.
Penses-tu que si tu avais aujourd'hui à faire ce projet-là, tu aurais eu du fun?
Ah, vraiment, définitivement. C'est pas du tout représentatif de ce que je fais aujourd'hui parce que là, c'était dans les milieux humides. Et je me suis ramassée aussi dans les milieux humides. Donc, c'est pas la... je dirais que c'est pas la seule contradiction dans mon parcours. Après ça, au cégep, j'ai fait un double DEC en littérature puis en sciences naturelles, puis je savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire de ma peau, là.
En littérature?
Oui, parce que quand je faisais des petits tests d'orientation, on me disait, ben toi, tu scores moyen dans toute, t'es dans le milieu, on n'arrive pas à te classer, fait qu'on te suggère de faire plusieurs choses différentes. Puis je m'étais dit, la fameuse expression, je vais m'ouvrir le plus de portes possible. Mais finalement, c'est les portes de science que j'ai empruntées parce que c'est celles qui me semblaient offrir les emplois les plus certains. C'est souvent un stéréotype là, qu'on a. Puis j'ai commencé mon bac en biologie. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je détestais profondément les mathématiques au cégep. Je me suis confrontée au cours de calcul intégral et ça a été ma bête noire. J'ai détesté ça. Et je me suis même organisée pour avoir deux cours. Je préférais avoir deux cours concomitants au cégep. Donc, deux cours en même temps qui se chevauchaient que d'avoir le cours de statistique tellement je détestais les mathématiques. Puis là, encore une fois, contradiction, je me ramasse dans la branche de la biologie qui fait que des statistiques. Donc, j'en fais presque à tous les jours là, des statistiques. Fait que quand je suis arrivée à l'université en biologie, moi, j'aimais les animaux. Donc, moi, je me disais, c'est sûr, je vais travailler en zoologie ou quelque chose comme
en
ça.
En comportement animal.
Oui.
Un peu comme tous les étudiants qui arrivent en biologie dans mon parcours, dans ma cohorte. En tout cas, c'était ça. Pour moi, c'était ça aussi.
Ouais, je suis pas la seule du tout à avoir cette vision-là. Puis là, ben, j'ai fait des cours d'écologie et environnement. J'ai fait aussi un cours en chimie de l'environnement. J'ai commencé à faire les stages en écologie végétale, le cours d'écologie végétale, le stage d'écologie forestière. Fait que plus j'en faisais, plus je voulais en faire. J'ai commencé à manger de ces cours-là, puis je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais finalement, c'était les plantes. Mais pas juste les plantes, j'aimais aussi tout ce qui avait trait au fonctionnement des écosystèmes. Donc, comprendre pourquoi la plante, elle est là et pas à un autre endroit. Qu'est-ce qui gère la distribution des espèces, la biodiversité. Donc, c'était toutes des choses qui commençaient, des intérêts qui commençaient à s'éveiller avec des cours que j'ai suivis.
Mais y a-tu un cours en particulier qui t'a donné le goût de continuer là-dedans? Parce que j'imagine que t'es rentrée en biologie sans trop savoir que t'allais rester en biologie.
Bien, il y a deux cours que j'ai vraiment appréciés puis qui ont un peu comme éveillé la flamme, si on peut dire ça comme ça en moi. C'est le stage d'écologie végétale qui était donné à la station de biologie des Laurentides.
Pour nos auditeurs et auditrices, la station de biologie des Laurentides, c'est 16 km carrés de forêts et de lacs intouchés. Donc, c'est un territoire qui est loué par l'Université de Montréal depuis quelques dizaines d'années. Il y a quelques laboratoires, une cafétéria et quelques lits pour accueillir les étudiants qui font des stages de terrain ou des étudiants chercheurs qui font du terrain là. Donc on est vraiment choyé d'avoir la SBL.
Ouais, puis c'est vraiment là qu'on a nos meilleurs souvenirs du bac.
Mm-hmm.
Ouais. Ben c'est ça, puis ce stage-là, c'est 10 jours à la SBL où on est tous les étudiants ensemble et on fait du terrain, on apprend à faire de l'analyse de données. Fait que j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire, tout ce qu'on pouvait faire avec ce genre de données-là. Et le deuxième cours, c'était le cours de chimie de l'environnement, qui était le cours extracurriculaire que j'ai fait. Donc, en sciences biologiques à l'UdeM, on peut prendre un cours au choix. Puis, ben moi, j'aimais tellement la bio que j'ai dit, ben je veux prendre un cours qui est quand même pas trop loin. Je voulais pas prendre un cours de langue ou des trucs comme ça. Et ce cours-là, je l'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'on ça venait nous expliquer comment ça fonctionne, l'écosystème, pourquoi on a une couche d'ozone, pourquoi les lacs sont stratifiés. Toutes des questions qu'on pense même pas à se poser.
C'est quoi le smog?
Oui, c'est ça. Mais toi aussi, tu l'as fait ce cours-là.
Oui, exactement. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, c'est le cours qui m'a donné envie de continuer en recherche parce que moi aussi, je rentrais un peu dans le bac en biologie de reculons. Je me disais, jamais je vais faire de la recherche. Moi, j'étais une fille de groupe, j'aime ça parler. Je ne veux pas être seule dans mon laboratoire de sous-sol dans le noir. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai fait ce cours-là, puis je dis, hey, je peux en faire un métier, puis je veux vraiment travailler en écotoxicologie parce que c'est vraiment l'étude des contaminants. Donc, c'était une bonne partie du cours. Puis moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais faire de la recherche.
Bien, c'est un super cours, sachant que ça l'a éveillé plusieurs flammes. Là. Je le conseille à tous les étudiants, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ces deux cours-là, je te dirais, là, pour répondre à ta question, mm-hmm. qui ont éveillé là, l'intérêt de la recherche en moi. Puis c'est ça qui m'a poussée à chercher des stages, là, puis avec on a des organismes de bourse qui nous permettent de faire des stages d'été. Donc, moi, je voulais faire un stage avec... un stage. Donc, moi, je voulais faire un stage avec le fameux Jacques Brisson. Donc, rendu à cette étape-là, j'avais eu plusieurs cours avec lui et je le trouvais bien impressionnant. J'aimais bien ce qu'il faisait en recherche. Mais j'ai pas eu le stage. Et finalement, ce que je me suis ramassée à faire, c'est être auxiliaire de recherche dans le laboratoire de Roxane Maranger, qui est aussi chercheure à l'Université de Montréal. Et donc, j'ai commencé au bas de l'échelle. Moi, je lavais la vaisselle. C'était ça, ma job.
Qui n'a pas fait ça?
Non, mais je pense qu'il faut décrire, ça veut dire quoi, laver la vaisselle?
Oui, c'est pas comme laver la vaisselle chez soi, là. C'est avec un sarreau, des gants, des lunettes et un bac d'acide. C'est ça, laver la vaisselle. Ou laver des tubes qui ont été exposés au phosphore et à l'azote avec trois rinçages à l'eau normale, trois rinçages à l'eau distillée, trois rinçages à l'eau millicule. Donc, c'est très aliénant, là.
Fait que dans le fond, c'est comme pour enlever toute trace de contaminant ou de quelque chose que tu as déjà mesuré dans ces bouteilles-là, par exemple.
Oui, exact. Puis, il n'y avait jamais personne qui est venu me voir en me disant que ces données étaient tout croche. Fait que je pense que je faisais bien ma job de nettoyage.
Bravo!
Ouais. Je faisais d'autres tâches là, à gauche, à droite, chercher des données pour certains étudiants, préparer leur matériel de terrain, faire des calibrations avec des logiciels particuliers. Fait que je touchais un peu à tout. Mais en gros, c'est j'étais la femme à tout faire du laboratoire.
Ben, tu construisais un peu ta boîte à outils.
Exact. Puis, on sous-estime beaucoup ça. Puis c'est au mois de mai, dans le fond, que là, je me suis plus assise avec Roxane. Et j'ai eu la chance, en fait, que Roxane me pose une question qu'on m'avait jamais posée avant à l'école. On dit « Rianne, qu'est-ce que t'aimes faire, toi? » Puis là, j'ai dit « Ben, ça m'a pris au dépourvu. » Puis j'ai dit « Ben, moi, j'aime les plantes, puis la biogéochimie. » Parce que là, je sortais du cours de chimie de l'environnement, puis de mon stage d'écologie végétale. Fait que là, j'étais comme « C'est ça que j'aime. » Elle m'a dit « Ben, parfait, on va développer un projet autour de ça. Puis je t'invite à faire un cheminement honneurs avec moi. » Les cheminements honneurs, c'est comme une mini-maîtrise qu'on fait au baccalauréat qui implique des crédits de recherche, mais aussi un cours en communication scientifique. Et donc, ça a été vraiment mon premier vrai contact avec la recherche, le cheminement honneurs avec Roxane. Puis ça a été très, très formateur parce que ça a demandé beaucoup d'autonomie dans le sens où, là, on m'a dit « Ben, tu vas faire du terrain », mais j'étais pas assigné à un étudiant. Comme le projet a été créé pour moi, mais c'était mon projet, c'était moi qui décidais de comment faire, mais c'était aussi moi qui devais, justement, là, j'étais prise avec le fait de créer un protocole de terrain, savoir qu'est-ce que j'allais échantillonner, comment, pourquoi, en quelle quantité, à quel moment. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de lectures pour me préparer à faire ce terrain-là. J'ai évidemment été accompagnée par les étudiants de Roxane aussi.
Oui, je pense que c'est important de mentionner qu'on n'est pas laissé au dépourvu. Il y a des ressources qui sont là. Donc, pour avoir des nouvelles idées, pour savoir comment faire, on peut lire des articles, mais il y a aussi des protocoles qui sont souvent dans les labos, partagés entre les étudiants. Puis les étudiants actuels sont vraiment des ressources clés, là, finalement.
Oui, c'est ça. En temps normal, c'est ce qui se serait passé, mais comme c'est un truc sur lequel Roxane n'avait jamais travaillé et aucun de ses étudiants n'avait travaillé là-dessus non plus, j'avais pas de... Justement, toutes ces ressources-là, je les avais pas. Mais ça reste que les étudiants, mettons, au doctorat, sont plus expérimentés que toi. Mm-hmm. Fait qu'outre la science derrière le projet, mais t'expliquer comment on fait ça, une campagne d'échantillonnage, j'avais de l'aide. J'étais pas toute seule. J'avais des collègues là pour m'aider. Mais ça a été une vingaine de jours d'échantillonnage à la station. C'est la première fois que je faisais de la plongée en apnée de ma vie. En gros, j'allais échantillonner des plantes aquatiques dans le fond des lacs pour après ça mesurer des caractéristiques sur les plantes. Par exemple, la taille des feuilles, la grosseur des racines, la forme de la plante en général. Et l'objectif du projet, c'était de voir si le développement résidentiel autour des lacs avait un impact sur les plantes, sur leur forme, sur leur contenu en nutriments. Aussi, ce que ce projet-là aussi m'a fait réaliser, c'est qu'en recherche, souvent, on va travailler plus fort que ce qu'on va présenter à la fin, je m'explique, là. Souvent, on va ramasser plein de choses, puis au final, ce qu'on va publier, ce qu'on va présenter, c'est un pourcentage de tout ce qu'on a fait. Donc, au début, j'avais cette petite frustration de dire « Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai travaillé dans le beurre, comme on dit. » Puis après, tu réalises « Non, ça m'a vraiment permis de construire ma boîte à outils de compétences, de connaissances, puis c'était pas perdu. » Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir perdu mon temps, là, du tout dans ce projet-là. Et ça m'a vraiment donné le goût là, de continuer plus loin en recherche. Fait que j'ai commencé à me magasiner une maîtrise. Parce que c'est un magasinage, hein? Ça, oui. Je m'étais fait dire, là, magasine ça comme il faut. Tu sais, comme un chandail, tu vas l'essayer, là. Mais le but, c'est ça, là, c'est d'aller poser des questions aux étudiants dans les labos, voir qu'est-ce que la personne a fait, est-ce qu'on est un bon fit pour travailler ensemble.
Ce serait quoi, mettons, 2-3 questions là, que tu poserais aux étudiants pour savoir si ce labo-là, c'est un bon fit avec toi?
Bien, la première question, moi, que je poserais, c'est est-ce que ton directeur ou ta directrice est présent? C'est quoi l'encadrement que tu reçois? Parce que je pense que chaque personne est différente. Il y a des gens qui ont besoin d'autonomie, ont besoin que tu les laisses respirer. Et au contraire, il y a d'autres gens qui ont besoin d'encadrement, qui vont se sentir perdus s'ils ne l'ont pas. La deuxième question, je pense que je poserais, c'est est-ce qu'il y a des horaires à respecter? C'est quoi les horaires dans le laboratoire? Est-ce qu'on vous demande d'être là à tous les jours, de 9 à 5? Est-ce qu'il y a 3 jours semaine? Est-ce que vous êtes laissé libre à vous-même? Est-ce qu'il y a des rencontres de labo? Donc, ça ressemble à quoi une semaine dans votre laboratoire? Puis la troisième, qui je pense est importante, tu sais, c'est le financement. Donc, on le sait, souvent, nos projets de recherche, ils vont prendre peut-être plus de temps que ce qui est prévu par l'université. Donc, 2 ans à la maîtrise, 3 ans au doctorat de financement minimal. Et en moyenne, à notre département, les doctorats, c'est 5 ans.
5 ans, 2 semestres.
Oui, donc c'est beaucoup, c'est long. Et ce financement-là, il n'est pas garanti. Donc, c'est une question qui est importante à poser à son directeur. Est-ce que si j'étire mon doctorat et que je n'ai plus de financement de sources externes, par exemple, est-ce que tu vas continuer à me payer?
Toi, dans le fond, finalement, ton choix s'est arrêté sur qui?
Bien, mon choix s'est arrêté sur Stéphanie Pellerin. Puis c'est un choix un peu cryptique parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étudiants au baccalauréat qui ne la connaissent pas parce que Stéphanie, elle n'enseigne pas au premier cycle. Stéphanie est techniquement elle est chercheuse à la Ville de Montréal, mais affiliée à l'Université de Montréal. Donc, elle est basée au Jardin botanique. Et comment j'ai appris qu'elle existait, en fait, c'est qu'elle est venue donner une séance de cours dans le cours d'écologie végétale de Jacques Brisson. Et quand j'ai fait le stage d'écologie végétale, les démonstrateurs, les auxiliaires d'enseignement, c'était presque tous ses étudiants à elle. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, vous venez d'où? Vous, on ne vous a jamais vu. Puis c'est vraiment cool ce que vous faites comme projet. Fait que j'ai décidé que j'allais écrire à Stéphanie. J'ai dit, voilà, c'est quoi mes intérêts? Est-ce que tu aurais un projet qui pourrait me convenir? Puis là, elle a commencé à me parler de milieu humide. J'étais comme, milieu quoi? Moi, j'ai travaillé dans les lacs. Fait que moi, OK, ça me va d'être encore les 2 pieds dans l'eau.
Les lacs, c'est humide.
Oui, c'est ça. Voilà, les lacs, c'est humide. C'est correct, j'ai de l'expérience, je sais c'est quoi. Ouh, non, je savais pas c'était quoi.
Il y a quelque chose que tu m'as dit un moment donné, puis je vais toujours m'en rappeler. Ça dit, quand j'ai découvert les milieux humides, en fait, c'était un peu le buffet chinois des écosystèmes.
Oui. Ben, les milieux humides, c'est que c'est vraiment, sont à la jonction entre les écosystèmes terrestres et aquatiques. Fait que tu vas te ramasser avec une espèce de melting pot de ce qu'il y a dans les autres milieux. Puis souvent, c'est des écosystèmes que certains organismes, certaines espèces vont utiliser dans leur cycle de reproduction ou où ils vont aller s'alimenter. Donc, ça va faire partie de leur cycle de vie. Donc, tu vas les retrouver dans ces écosystèmes-là, même si ce n'est pas leur lieu de vie principal. Par exemple, le plongeon huard, qui est une espèce emblématique du Québec, vit techniquement et se nourrit dans le lac, mais nidifie dans les milieux humides sur les rives des lacs.
Fait que là, toi, tu as fait un projet de maîtrise sur les milieux humides ou ça avait une autre particularité?
Donc, mon sujet, en fait, moi, je travaillais sur l'effet de l'urbanisation et de l'agriculture sur la biodiversité dans les milieux humides urbains. Donc, j'ai échantillonné des milieux humides à Laval. Donc, souvent, on ne pense pas à Laval comme étant un point chaud de milieux humides, mais étonnamment, il y en a... Non, c'est ça, mais il y en a beaucoup, mais ils sont très petits en majorité. Donc, c'était de voir si... Quand je suis en zone agricole versus en zone naturelle versus en zone très urbaine, est-ce que j'ai les mêmes espèces? Est-ce que j'ai une grande diversité entre mes milieux humides, dans mes milieux humides? Puis je m'intéressais aussi à la diversité fonctionnelle. Donc, c'est de comprendre c'est quoi les caractéristiques des plantes qui vont leur permettre, dans le fond, d'avoir un effet ou de répondre à ce qui se passe dans l'écosystème. Puis comment est-ce que l'urbanisation et l'agriculture peuvent influencer ça? Ma maîtrise, je l'ai réalisée en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Laval. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire en recherche, des fois collaborer avec le ministère, avec des OBNL en environnement. Et donc, c'est là où j'ai appris, en fait, à caractériser, délimiter les milieux humides, qui est une tâche qui est très complexe. Et moi, je me suis retrouvée un peu garochée dans cet univers-là, avec un guide entre les mains, comme seul formateur, à devoir effectuer cette tâche-là avec un GPS à 10 000 $ que je ne savais pas trop utiliser. Mais, encore une fois, j'ai appris beaucoup.
Et finalement, cette collaboration avec le Creux Laval t'a donné envie de continuer au DOC, parce qu'au DOC, tu as aussi plusieurs collaborations avec d'autres organismes à l'extérieur de l'université.
Oui, donc on m'a proposé ce projet de doctorat-là. Et au début, ben moi, je suis pas partie à la maîtrise en me disant « Oui, je veux être une chercheure, je veux faire un doctorat, un post-doctorat. » J'avais aucune idée. Et donc, le projet impliquait des collaborations multiples. Donc, on est 4 étudiants à travailler sur le projet. Il y a 3 chercheurs de 3 universités différentes qui sont impliqués. Et on collabore avec Conservation de la Nature Canada, avec Uranus et aussi avec Canuck Nature, qui est probablement le collaborateur avec lequel moi je fais le plus affaire, parce qu'on fait notre terrain sur leur territoire.
Ils sont où?
Donc, Canuck Nature, en fait, c'est une réserve naturelle qui est conservée par Conservation de la Nature Canada. Mm-hmm. Et c'est situé au nord de Montebello et au sud de Boileau. Donc, c'est à cheval entre les Laurentides et l'Outaouais. Littéralement, le lac sur lequel moi je travaille est coupé en deux par la frontière entre les Laurentides et l'Outaouais.
Mm-hmm. Donc, c'est quoi, mettons, 2 heures, 3 heures d'auto là, depuis Montréal?
Ou... C'est 2 heures.
2 heures.
Oui. Donc, c'est pas si loin, mais assez pour dire que quand on fait notre terrain, on dort là.
Mm-hmm.
Puis on dort dans les chalets de Canuck Nature, qui est en fait une pourvoirie assez luxueuse. Là, on peut aller y louer de magnifiques chalets avec des tables de poker et de pool. On peut réserver pour 300 $ de l'heure un sauna flottant que le gardien de la marina peut transporter où vous voulez sur le lac Papineau.
C'est sûr, parce qu'au doctorat, on est luxueux comme ça.
Ouais. Non, moi, en fait, j'avais le chalet pas d'électricité avec four et frigo au gaz.
Ça reflète bien notre condition. Mais là, moi, je te vois t'emmener avec ton sujet de recherche, puis j'aimerais vraiment, avant qu'on parle de ton sujet de recherche de doctorat, qu'on élabore un peu plus sur les milieux humides. Donc, c'est quoi un milieu humide? C'est quoi ses fonctions? Est-ce que j'entends parler souvent qu'on en détruit? Donc, un petit peu, si tu peux peut-être commencer par les définir.
Ah, la définition des milieux humides.
Est-ce qu'un lac, c'est un milieu humide?
Elle est complexe quand même, là. Quand on parle de milieu humide, on va souvent parler de milieu humide et hydrique. Donc, les milieux hydriques, c'est les cours d'eau et les lacs. Puis les milieux humides, c'est le reste. Les milieux humides, en fait, la définition officielle, c'est des écosystèmes où l'eau va être présente de façon suffisamment longtemps pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les conditions sol et végétation. Donc, c'est un peu incompréhensible, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau qu'on n'est pas dans un milieu humide.
Donc, il y a des types de sols qui peuvent caractériser un milieu humide et il y a des types d'espèces ou de plantes.
Ouais,
qui peuvent caractériser le milieu humide.
Oui, il y a 3 choses, en fait. Il y a, comme tu dis, le sol, les plantes et l'hydrologie. On va classer les milieux humides en différentes catégories en fonction de différentes composantes de ces éléments-là. Il n'existe pas juste une bonne façon de classer les milieux humides. Il y en a plein. Au Québec, on en a une officielle. Au Canada aussi, on en a une officielle. Mais en général, on a comme 5 grandes catégories de milieux humides. On a des eaux peu profondes qui sont un peu difficiles à caractériser parce que des fois, on se demande, on est-tu dans un milieu humide? On est-tu dans un lac? C'est pas clair. Fait que cette catégorie-là est un peu floue. On a les marais. Donc ça, c'est dominé par des espèces herbacées, par exemple des quenouilles ou des nénuphars ou des carex pour les initiés. On a après ça des marécages. Les marécages, ça va être dominé par des arbustes ou des arbres. Fait qu'on peut avoir des marécages arborés ou arbustifs. Puis après ça, on a les tourbières. Là, j'ai dit 5, mais il y en a juste 2. Mais c'est parce qu'il y a 2 grands types de tourbières. Il y a les bogues, puis il y a les fens. Puis ça, sans trop rentrer dans les détails, c'est par rapport à comment ils vont aller chercher leurs nutriments, puis d'où l'eau provient. C'est ça qui va les différencier. Et les tourbières, je pense que c'est le type de milieu humide qui est le plus cryptique pour la majorité des gens. On l'entend souvent, ce mot-là, mais on se demande tout le temps, OK, c'est quoi la différence entre un marécage et une tourbière?
Parce que finalement, on pourrait être dans une forêt, mm-hmm. puis être dans une tourbière.
Oui, ou dans un marécage. Ah! Ce n'est pas simple. Puis c'est ça qui fait qu'il les rend compliqués à échantillonner, parce que si tu veux échantillonner un boisé, là, tu regardes une carte, une image satellite, il y a des arbres, il y a un boisé, j'y vais. Un milieu humide, il y a des arbres, mais suis-tu dans un milieu terrestre ou humide? Il y a plein de composantes qu'il faut que tu regardes, puis ça, on appelle ça la photo-interprétation. Puis c'est un gros travail préliminaire à faire avant d'aller sur le terrain qu'on doit faire. On regarde la topographie, on regarde l'hydrologie, on regarde les cartes passées. Fait que oui, tu pourrais être dans le bois, puis te dire hey, « je suis dans une forêt », mais en fait, tu es dans un marécage ou dans une tourbière. Puis la différence entre les deux, c'est le sol. Donc, les tourbières, c'est des milieux humides où on va retrouver une grande quantité de tourbe dans le sol. La tourbe, c'est de la matière organique qui n'est pas décomposée. Donc, qui est des plantes, des résidus de plantes qui vont s'accumuler d'année en année et qui vont créer un dépôt d'une certaine épaisseur. Pourquoi ça ne se décompose pas? Bien, c'est à cause des conditions environnementales dans cet écosystème-là.
Oui, qu'il n'y a pas d'oxygène, finalement.
Il n'y a pas d'oxygène à cause qu'il y a beaucoup d'eau ou il fait froid. Dans le nord, on a beaucoup de tourbières parce que la basse température limite les processus de décomposition. Et aussi l'acidité. Dans les tourbières, on va avoir une forte acidité. Puis ça aussi, ça va venir limiter la décomposition de la matière végétale. Fait que si on a au moins le chiffre magique, c'est 30 cm d'épaisseur de matière organique, on est officiellement dans une tourbière.
Mais donc, j'imagine qu'on ne peut pas vraiment s'improviser biologiste et commencer à caractériser n'importe quel milieu humide, n'importe de quelle façon.
Il n'y a pas de loi qui t'empêche de le faire, mais définitivement, je ne le conseille pas. Ça prend une expertise, ça prend de la formation. Il existe des formations qu'on peut suivre au Québec là, de caractérisation et délimitation des milieux humides que tu peux suivre. Et toute entreprise ou organisme responsable va s'assurer que ces biologistes sont formés pour faire ce travail-là. Donc, moi, j'ai pas de grande inquiétude à ce sujet-là, mais comme tu dis, non, on peut pas, n'importe qui ne peut pas faire ce travail-là. Ça prend de l'expertise, des connaissances, des compétences.
Puis, j'imagine que selon le type de milieu humide, ça va rendre des services ou ça va avoir des fonctions écologiques qui sont différentes.
Oui, donc, dans le fond, les services écologiques, c'est les biens, en fait, que les écosystèmes vont nous rendre. Puis les fonctions, en fait, écologiques, c'est un peu différent. Les fonctions, c'est les processus qui vont gérer le flux de matière dans l'écosystème, peu importe qu'il y ait des humains ou pas. Donc, si je suis dans le milieu d'un boisé qui n'a pas de population à des kilomètres carrés là, de distance, mais mon écosystème, il va quand même accomplir des fonctions écologiques, mais il ne rendra pas de service écologique parce que personne, il n'y a pas de bénéficiaire.
Donc, finalement, le mot « service écologique », c'est juste parce que les humains, on s'est approprié.
On s'approprie les fonctions qui sont réalisées par l'écosystème. Ça devient des services qu'on peut quantifier et qu'on peut même monétariser. Donc, c'est quelque chose qui commence à être fait. On met une valeur sur les écosystèmes parce qu'on se dit, bien, si on le remplace par exemple, on remplace un milieu humide qui rend le service d'épuration des eaux, de filtration d'eau, donc qui améliore la qualité de l'eau. Si on le remplace par une usine d'épuration, c'est quoi le coût de conserver le milieu humide puis d'avoir ce service-là gratuitement versus construire une usine d'épuration?
Quand tu dis ça de l'améliore la qualité de l'eau, peut-être qu'on peut un peu plus élaborer parce que c'est pas si évident que ça de dire quand un milieu humide améliore la qualité de l'eau qui tombe en aval.
Oui, bien, je te donne un exemple sur les rives du fleuve Saint-Laurent, dans le bout du lac Saint-Pierre. Il y a des grandes plaines inondables qui sont des milieux humides. Ce qui va arriver, en fait, c'est que l'eau des terres agricoles avoisinantes va être chargée de nutriments et va ruisseler dans les milieux humides. Le fait qu'il y a beaucoup d'eau dans le milieu humide, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans l'eau. Et ça va affecter les processus de transformation des nutriments. Et ça va favoriser le retrait, les transformations de l'azote et du phosphore pour les retirer, en fait, de l'eau ou les séquestrer littéralement dans les sédiments avant qu'ils se ramassent dans nos cours d'eau.
Donc, par exemple, il y a des terres agricoles. Avec la pluie, ça prend les fertilisants, l'azote, le phosphore, ça les amène vers les cours d'eau. Une fois que ça tombe dans un milieu humide, ça ralentit aussi le courant de l'eau.
Oui, voilà, la végétation va agir aussi comme un ralentisseur. C'est ça va filtrer non seulement les nutriments, mais les particules en suspension aussi. Donc, ça va diminuer la quantité de sédiments qui vont être amenés vers les cours d'eau. Donc, ça améliore la qualité de l'eau par la séquestration des sédiments, mais aussi des nutriments.
Donc, finalement, ce sont les plantes qui captent les nutriments avant que l'eau continue son chemin vers le cours d'eau, vers le fleuve.
Oui, ça va faire un effet tampon. Puis on le voit aussi dans les lacs, là, quand on a un littoral qui est rempli de plantes, mais qu'on a une eau de très bonne qualité avec très peu de phosphore et très peu d'azote. Mais c'est grâce à nos plantes, en fait, parce que c'est elles qui vont avoir cet effet d'éponge-là, d'absorber tous les nutriments puis de les garder séquestrés dans le fond de l'eau, dans les sédiments, plutôt que de faire ce qu'on appelle des blooms d'algues bleu-vert et amener de la toxicité, de l'anoxie, plein de phénomènes qui peuvent nuire à la biodiversité dans les cours d'eau puis à la qualité de l'eau en général.
Fait qu'on peut dire que, dans ce sens-là, les milieux humides, c'est un puits de nutriments, de contaminants, mais aussi de carbone.
Oui, puis là, on parlait des tourbières tantôt, c'est le type d'écosystèmes qui sont les plus importants pour séquestrer le carbone, mais aussi qui sont les stocks les plus importants. Donc, la matière organique, c'est quoi? Mais c'est du carbone qui, s'il n'était pas séquestré dans le sol, serait dans l'atmosphère sous forme de CO2. Par les processus de décomposition, les micro-organismes vont relâcher du CO2 dans l'atmosphère quand ils font le processus de décomposition. Mais là, ça n'a pas lieu dans les tourbières. Fait que ce CO2-là, il est dans le sol. Puis il dort là pendant des milliers d'années. Donc, ça prend, pour avoir un mètre de tourbe, là, ça dépend des conditions, mais c'est on ne parle pas de 5 ans, 10 ans, on parle de milliers d'années pour avoir plusieurs mètres de tourbe.
Donc, c'est vraiment, là aussi, comme on a dit, un puits de carbone, ça garde du carbone, puis si on les détruit, si on les fait prendre en feu, par exemple, ça relâcherait tout ce carbone-là sous forme atmosphérique, oui. Sous forme de CO2, par exemple.
Oui, voilà, au même titre que c'est quelque chose qu'on connaît, avec lequel on est peut-être un peu plus familier, les énergies fossiles, c'est un peu le même principe. Le pétrole, c'est du carbone qui a été, pendant des millions d'années, concentré et qui nous a donné cette matière-là. Donc, ça a pris des millions d'années à le former et nous, dans une fraction de seconde, on met de la gasoline dans notre voiture puis fou, tout ce CO2-là revient dans l'atmosphère de façon extrêmement rapide. C'est moins rapide au niveau des tourbières, mais c'est quand même des milliers d'années de travail qu'on relâche en claquant des doigts. La tourbe aussi, c'est un élément qui va retenir beaucoup l'eau. Donc, c'est vraiment, ça travaille comme une éponge. Donc, les milieux humides vont aussi offrir un service de stockage de l'eau qui va, par le fait même, aussi nous protéger contre les inondations. Donc, plus on enlève de milieux humides, plus on enlève d'éponges qui vont venir stocker l'eau quand il y a, par exemple, au printemps, la neige fond et les cours d'eau débordent, ou à l'été, quand on a des fortes sécheresses aussi, on a moins de stock d'eau. Donc, les milieux humides sont ces espèces de régulateurs-là au niveau des quand on parle des niveaux d'eau.
Fait qu'on peut penser que si moi, je suis un promoteur immobilier, je veux installer une tour à condo sur le bord du fleuve ou sur le bord d'une rivière, mais qu'il y a un milieu humide qui m'en empêche, si je le détruis, après, c'est sûr que ce milieu-là, il est plus vulnérable aux inondations.
Voilà, et probablement que les gens qui ont les unités au sous-sol de ton condo vont se ramasser les deux pieds dans l'eau au printemps. Et les gens du quartier autour, donc le milieu humide, il ne protège pas que sa propre superficie. Mm-hmm. Il va venir protéger toute une zone à proximité des inondations. Et c'est ça qui est arrivé dans certaines villes comme Laval, où j'ai fait mon terrain justement de maîtrise. Mm-hmm. Donc, ils ont eu des pertes très, très importantes dans les 15 dernières années de superficie de milieu humide. Et en 2017, ils ont vécu des inondations incroyables qui auraient pas nécessairement été évité, mais qui aurait pu être fortement diminué par la présence de milieux humides.
Dans le fond, les tourbières ils ont des capacités tampons assez incroyables, puis c'est ça qui nous aide à vaincre un peu les événements extrêmes inattendus, comme par exemple de grosses pluies.
Oui, ou les changements climatiques, par exemple.
Puis là, tu sais, on parle de changement climatique, mais si on garde ces milieux humides-là dans notre environnement de vie, si je peux dire. Qu'est-ce que ça fait sur la température?
Bien, ça vient créer ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Donc, si on prenait un drone, puis qu'on y attachait une caméra thermique, puis qu'on se promenait au-dessus du centre-ville de Montréal, bien, on verrait tout en rouge. Puis là, si on arrivait au-dessus d'une forêt, ou encore mieux, d'un milieu humide, bien là, on verrait ça en bleu ou en vert. Donc, ça vient diminuer la température d'une région, d'une zone, en créant des îlots de fraîcheur. Puis ça passe notamment par la présence de végétation, mais aussi par la présence d'eau. Puis c'est des îlots de fraîcheur aussi qui peuvent être utilisés par les gens. Donc si moi j'habite en ville et que j'ai envie d'un petit répit là, de cette canicule, bien aller me promener dans un boisé ou dans un milieu humide, bien ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Mm-hmm. Pas seulement pour la température, mais aussi pour l'intérêt général de juste profiter de la nature. C'est un service écologique qu'on peut quantifier, ça. Les services culturels, de loisirs, de récréation dans les écosystèmes. Donc, ça a une valeur, ça. Notamment, les valeurs des maisons à proximité des milieux humides ou des milieux naturels vont augmenter parce qu'on a justement cet accès-là à la nature dans un milieu qui, lui, est très urbain.
Donc là, tu parles d'accès à la nature, mais j'imagine que ces milieux-là sont vraiment très riches en biodiversité. Il y a beaucoup d'animaux, d'insectes qu'on retrouve.
Oui, comme tu le disais au début, moi, je les appelle le buffet chinois là, des écosystèmes. C'est pas pour rien. C'est vraiment des écosystèmes diversifiés par le fait que t'as des arbres, t'as de la végétation amassée, t'as de l'eau. Fait que t'as un peu de tout là, dans ces écosystèmes-là. Ça fait partie du cycle de vie de beaucoup d'organismes. Donc, c'est des écosystèmes dans lesquels aussi on retrouve beaucoup, beaucoup d'espèces rares, menacées, donc qui sont des espèces qui sont protégées par la loi aussi. Donc, non seulement il y a un aspect légal de la protection des milieux humides, mais aussi des espèces qu'ils abritent.
Là, moi, je nous entends parler, puis tout ce que je vois, c'est vraiment des avantages à les conserver. Donc, ils n'ont vraiment que des côtés positifs, à mon point de vue, mais pourquoi on voudrait les détruire? Je ne comprends pas.
Bien, c'est parce que souvent, on va travailler dans le court terme. Donc, un milieu humide, ça ne rapporte pas de taxes foncières, de taxes municipales, comme un condo qui en rapporte, lui. Donc, si on part d'une échelle spatiale et temporelle qui est très restreinte, bien, à court terme, la meilleure solution économique, c'est de les tasser puis de mettre de quoi qui rapporte à la place. Mais là, si tu prends ton échelle temporelle et spatiale et que tu la mets beaucoup plus grande, à long terme, ces écosystèmes-là vont nous rapporter beaucoup plus parce qu'éventuellement, avec les impacts des changements climatiques, on va en avoir de plus en plus besoin. La demande va grandir pour les fonctions et les services écologiques de ces écosystèmes-là. Fait qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir les restaurer, on va devoir en créer. Puis c'est ça qui est arrivé aussi avec la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides et hydriques qui est arrivée en 2017. Cette loi-là, elle a été créée en réaction justement à des problématiques de mauvaise application de l'ancienne loi qui était pratiquement ignorée, qui était ignorée en fait dans 99 % des cas de destruction de milieux humides. Donc on s'est dit, elle n'est pas efficace, comment on peut la rendre plus efficace? Et là, on est arrivé avec le concept de « aucune perte nette ». Ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc si je suis un promoteur immobilier, je vais devoir faire la preuve qu'il n'y a aucun endroit ailleurs dans la zone où je veux faire mon projet qui a le potentiel de m'offrir ce dont j'ai besoin. Le seul endroit où je peux faire ce que je veux faire, c'est dans ce milieu humide-là, fait qu'il n'y a pas le choix, il faut qu'il s'en aille. Mais là, si on fait ça, on doit mettre de l'argent dans un fonds vert qui va être éventuellement utilisé pour recréer ou restaurer un milieu humide qui va apporter une quantité de fonctions et de services écologiques équivalente à ce qu'on aura enlevé. Donc, l'idée d'aucune perte nette.
C'est et ou avec l'air. Ça pourrait être ou. Donc, c'est soit le milieu humide qu'on restaure, c'est pour les mêmes fonctions ou les mêmes services, ou une aire équivalente.
Voilà. C'est le, t'as le choix entre les deux. Fait que si t'as détruit quelque chose d'extrêmement grand, faut que tu trouves une façon aussi de les quantifier, ces fonctions et ces services-là. Hein? Parce que là, il faut que tu les remplaces à quantité égale. C'est pas facile à faire, se quantifier des fonctions et services écologiques. Puis c'est un des éléments dans la loi qui est difficile à gérer.
Donc, c'est pas juste plus simple de recréer l'air ou la superficie du milieu humide égale?
Ben, en partant, recréer un milieu humide, c'est pas simple.
Mais là,
c'est pas une science exacte, puis on ouais. a des croûtes à manger.
Mais là, cette loi-là est arrivée en 2017. Là, on est en 2021. C'est quoi le bilan? Est-ce que ça a vraiment fonctionné?
La réponse simple, c'est non. La réponse compliquée, c'est ça dépend.
Je suis tellement déçue.
Mais c'est qu'en fait, la loi, elle spécifie aussi qu'il faut qu'on regarde ça de façon critique et quantitative à tous les 10 ans.
OK.
Donc, si on y va avec la réponse compliquée, c'est pour l'instant non, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de faire beaucoup de projets de restauration, parce que ça prend de l'argent, mais ça prend aussi beaucoup de temps. Il faut faire des études d'impact qu'on va soumettre au ministère, qui lui va nous dire, ton projet, est-ce qu'il se vaut ou pas? Donc, c'est le processus de création de projet, de développer cette expertise-là. Comme je disais, on a des croûtes à manger. et d'avoir ce jeu de balle-là avec le ministère qui, des fois, nous dit « Non, on retourne à la table de dessin, on resoumet. » Donc, c'est un processus qui est long. Fait que c'est beaucoup plus rapide de les détruire que de les reconstruire. C'est ça qui fait que c'est lent. Mais effectivement, à superficie égale, le bilan le plus récent que j'ai vu disait qu'on avait détruit 11,9 km², ce qui est l'équivalent de 3 fois le Mont-Royal.
Depuis 2017.
Depuis 2017. Et on a restauré, je pense, 0,4 km².
C'est ça, fait qu'on a restauré comme moins de 1%.
Une poignée, là, c'est ça. Mais c'est ça, il faut mettre les chiffres en perspective avec le fait que ça prend du temps à faire ces projets-là. Mais ça fait pas depuis 2007 qu'on fait ça, là. Il y a des beaux projets au Québec qui ont été réalisés dans les dernières années. Je pense à un, entre autres, qui a lieu très près de chez moi et dont j'avais aucunement connaissance avant. Il y a quelques semaines, dans un congrès, j'ai appris qu'il y avait une fiducie qui avait restauré le boisé des Terres Noires à l'Assomption, qui est un boisé qui était exploité pour la tourbe. Justement, on extrayait la tourbe et on la vendait dans des centres de jardinage, par exemple. Et ce boisé-là a été restauré entièrement. Ils ont vraiment impliqué la population. Il y a eu des classes de primaire qui sont venues faire des travaux de restauration dans le milieu humide. Donc, c'est presque que des bénévoles qui sont venus faire ça. Vraiment un beau projet. Puis, ils ont valorisé aussi l'écosystème. Ils n'ont pas juste restauré, puis ils ont fait « Merci, bonsoir, on s'en va ». La fiducie est là aussi pour promouvoir la restauration, promouvoir le boisé.
Moi, je pense à deux choses quand tu me dis ça. Un, si j'avais pu faire ça quand j'étais au primaire.
Oui.
J'aurais probablement su plus tôt que j'aurais aimé être biologiste, ou du moins que j'aurais aimé observer les oiseaux, parce que c'est vraiment pour moi une passion maintenant. J'aurais découvert plus tôt.
Si t'étais Audrey Anne, t'aurais peut-être fermé la porte sur les tourbières, par contre.
Oui, parce qu'entre autres, les enfants, ce qu'ils ont fait, c'est rouler du phragmite avec des rouleaux. Là, c'est pas glamour hein, comme activité, là. Écraser du phragmite à coups de rouleau, là...
Mais en même temps, tu vois tellement de biodiversité. Je veux dire, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup d'insectes, beaucoup d'amphibiens. Moi, je pense que ça m'aurait tout de suite passionné plutôt que de passer mes récréations sur un terrain asphalté à jouer au ballon.
Je suis persuadée que ça allait éveiller des passions, puis ça me fait penser à un autre projet qui a eu lieu à Boucherville. Donc, ils ont recréé un méandre dans un cours d'eau. Donc, un méandre, c'est un peu un croche qu'on va venir créer dans un cours d'eau. Ça va venir ralentir l'eau parce qu'elle va être forcée de faire un cheminement un peu plus complexe et elle va déborder aussi dans une portion de terre qui va devenir aussi un peu milieu humide.
C'est comme, mettons, si ton cours d'eau était droit, là, tu fais un S dedans.
Mm-hmm. Voilà.
Fait que là, l'eau a plus de place où aller, puis à cause des courbes, elle va ralentir parce qu'elle se frappe au côté, finalement.
Mm-hmm. Le méandre est aussi conçu pour que l'eau rentre dedans quand elle atteint un certain niveau. Donc, quand l'eau, parce qu'il y a des barrières à l'entrée et à la sortie du méandre, donc quand le cours d'eau augmente beaucoup, on vient déborder dans le méandre, ça vient diminuer le niveau total.
Donc, ça crée un nouveau type d'habitat pour la biodiversité, entre autres.
Exactement. Puis les gens qui ont réalisé ce projet-là, quand ils étaient en train de le faire, là, comme quelques semaines après, ils voyaient déjà des poissons, des oiseaux, des insectes qui venaient profiter de ce nouvel écosystème-là. Et c'est juste à côté d'un CPE. Qui était très inquiet parce qu'il se disait « Ah, tu sais, de l'eau, les enfants, des fois, on a peur. » Mais là, ils sont incroyablement, agréablement surpris et vraiment contents d'avoir à proximité d'eux cet écosystème-là parce que les enfants allaient jouer dans le boisé à côté. Puis là, ils peuvent aller profiter d'encore plus de biodiversité puis avoir un meilleur contact avec la nature.
Donc ça, c'est un exemple de restauration qui a bien fonctionné. Ouais,
voilà.
Mais ça me fait rendre du bien d'entendre ça parce que je trouvais que le bilan est un petit peu démoralisant. Mais ce que je retiens vraiment de cette partie-là sur les milieux humides, c'est qu'ils ont des services qui sont totalement essentiels pour notre survie. Puis aussi, il faut vraiment les conserver dans une optique de lutte contre les changements climatiques. Donc, ça doit faire partie de la stratégie.
Oui, parce que ce que je comprends, c'est que restaurer un milieu humide, ça n'équivaut pas aux fonctions ou aux services qui étaient là avant.
Puis j'imagine aussi que pour qu'il fonctionne, cette restauration-là, pour que ça soit efficace, c'est pas simple du tout, là.
À long terme, souvent, ces projets-là échouent. Donc, au bout de 10 ans, des fois, si on a créé un milieu humide ou là où il n'y en avait pas naturellement, ben ça finit par pas fonctionner. Puis le suivi n'est pas assez important parce que ça prend de l'argent pour faire du suivi. Ça prend des gens qui sont là pour aller sur le terrain. Donc,
oui, parce que finalement, si ton milieu humide n'était pas là avant, mais là, tu dois en recréer un quelque part. Puis là, t'en recrées un où il n'y en avait pas avant. Ben, il y avait peut-être une raison pourquoi il n'y en avait pas avant. Il n'y a peut-être pas d'eau, pas d'accumulation d'eau, parce que c'est pas une topographie, donc il n'y a pas un creux dans l'élévation où il peut avoir une accumulation d'eau qui fait que tu as des conditions hydrologiques nécessaires à la création d'un milieu humide.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on va souvent essayer de davantage restaurer par exemple, la création de méandres en zone agricole, ça profite à l'agriculteur parce que ça va venir éviter, par exemple, des débordements, des inondations. Ça améliore la qualité de l'eau de tous les gens qui habitent en amont de ces champs agricoles-là, puis ça améliore la biodiversité, etc. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup poussé. Et la restauration de sites anciennement exploités, mais créer un milieu humide à partir de rien, c'est pas viable. Mm-hmm. C'est compliqué, puis c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant non plus. C'est pas ça qu'on vise. Mm-hmm. Les biologistes, c'est pas vers ça qu'ils s'en vont, parce qu'ils savent qu'effectivement, ça fait pas de sens. Puis tu me fais penser à un événement qui est arrivé à Laval cet été. Donc, il y a deux personnes inconnues qui ont essayé de faire disparaître un milieu humide en venant pomper l'eau qui était dans le milieu humide. Donc, eux autres se sont dit « milieu humide égale eau ». S'il n'y a plus d'eau, il n'y aura plus de milieu humide. Donc, je pourrais, en tant que promoteur, venir construire ce que je voulais construire.
Mais non!
Oui, mais ouais. Ils se sont fait prendre. Il y a des citoyens avertis qui ont vu ça, qui ont alerté la police, qui est venue arrêter les actions. Ils ont pris la fuite. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite, s'ils ont retrouvé les coupables. Mais tu vois, c'est une mauvaise conception de la population de ce qu'est un milieu humide. C'est pas parce que tu enlèves l'eau que le milieu humide n'est plus là.
Mais en même temps, cette situation-là, elle se traduit par un manque d'éducation parce que ces personnes-là, oui, ils voient le potentiel économique du terrain, mais ils ne voient pas le potentiel économique du milieu humide.
Voilà.
Notre conversation jusqu'à maintenant me fait penser à quel point il y a un manque de connaissances dans les milieux humides ou comment les reconnaître ou quels sont les services, les fonctions qui peuvent nous rendre. Et je pense que ça fait bien le pont avec le projet de ton doctorat.
Oui, donc je l'ai dit aussi tantôt, quantifier des services écologiques, c'est pas une tâche facile, c'est compliqué. Donc moi, c'est un des premiers objectifs auxquels je me suis confrontée là, dans mon doctorat. Dans le fond, moi, je travaille sur les milieux humides qu'on retrouve sur les bords de lac. Donc en partant, j'ai cette difficulté de savoir, suis-je dans le lac ou dans le milieu humide? Et je travaille, dans le fond, à comprendre c'est quoi les différences entre des types de milieux humides. Donc, pourquoi sur un bord du lac, j'ai une tourbière, puis de l'autre bord de la rive, ben j'ai un marécage? Qu'est-ce qui explique ces différences-là? Puis est-ce qu'ils m'apportent les mêmes fonctions et services écologiques, ces deux types d'écosystèmes-là? Moi, j'en compare trois au total. Donc, je compare des tourbières, dont je vous ai parlé plus tôt, des marécages arborés, donc qui sont dominés par des arbres, et des marécages arbustifs, qui sont dominés par des arbustes.
Tout ça sont en bord de lac.
Oui, sont toutes connectées au lac directement, donc ils se retrouvent entre le lac puis la forêt. Et je regarde, dans le fond, toutes sortes de caractéristiques environnementales, mais aussi beaucoup, beaucoup d'éléments de biodiversité. C'est un service écologique, la biodiversité, qui n'est pas facile à quantifier. C'est-à-dire que souvent, dans les études, on va choisir une métrique parce qu'on dit « j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent de tout quantifier ». Ça prend de l'expertise aussi sur le terrain, identifier des choses. Et on n'a pas nécessairement tout le temps ce temps-là, cet argent-là, cette expertise-là. Fait que souvent, on va choisir une métrique puis on va dire « ça va être ça
mm-hmm. ».
Sauf qu'en fonction de ce que tu échantillonnes, tu ne verras pas nécessairement les mêmes résultats. Donc nous, on s'est dit « ok, ben on va aller ratisser l'âge puis… » À la question « qu'est-ce qu'on choisit d'échantillonner? » Eh bien, nous autres, on a répondu « toutes ». Fait que, d'où mon buffet chinois, là, c'est vraiment dans mon projet, c'est ça. Là. On fait les plantes, on fait les oiseaux, on fait les poissons, on fait le zooplancton, puis les insectes chanteurs.
Wow! Tu as un travail colossal, puis juste avant que tu parles de ça, pourquoi les milieux humides de bord de lac?
Bien, en fait, de base, ce choix-là, c'est pas moi qui le fais. C'est le projet qui est conçu comme ça.
Mm-hmm.
Donc, dans le cadre du projet, on étudie l'hydrologie générale du lac Papineau, qui est situé à Kenak Nature, et on étudie la biodiversité et l'écologie de ces milieux humides, parce que ce projet-là, il est développé en collaboration avec les gens de Kenak Nature, et c'est ça qui les intéresse, c'est ça qu'ils voulaient savoir. Donc, je me suis rendu compte aussi après, en lisant dans la littérature, que c'était intéressant comme type de milieu humide, parce que de par leur positionnement un peu étrange, ils sont peu étudiés. Le limnologiste va regarder ce qui se passe dans le lac, L'écologiste va regarder ce qui se passe autour. Mais à la bordure entre les deux, souvent, on va oublier, on va penser, bien, c'est une écotone, c'est juste une zone de transition, il ne se passe pas grand-chose de pertinent là. Au contraire, c'est vraiment des écosystèmes à part entière qui ont des caractéristiques complètement différentes du lac puis de la forêt qu'il y a autour. Donc, ils sont très étudiés, par exemple, dans les grands lacs, sauf que c'est une dynamique hydrologique complètement différente des petits lacs du Québec. Pour te donner une idée, là, dans une journée, l'eau dans les grands lacs, elle peut varier d'une trentaine de centimètres. Puis dans une année, c'est 3 mètres là, que ça peut varier. Tu n'as pas ça dans les petits lacs au Québec. C'est des variations beaucoup plus douces. Donc, l'hydrologie dans nos lacs au Québec est vraiment différente. Fait qu'en gros, on ne connaît pas grand-chose sur ces écosystèmes-là.
Mais là, tu me fais penser, parce que moi, je travaille sur le fleuve Saint-Laurent, puis j'ai travaillé un peu sur les grands lacs. Puis là, on a parlé de changement climatique, puis je sais que le niveau des grands lacs, il va considérablement changer avec les changements climatiques, soit qu'il va être plus élevé ou moins élevé, puis avoir beaucoup de variations. J'imagine que c'est quelque chose qu'on va voir dans les lacs aussi.
Oui, effectivement. Puis c'est un volet de notre projet. Donc, l'équipe qui travaille en hydrologie à l'UQAM, eux, c'est ça qu'ils s'affairent à faire. Ils modélisent les variations de niveau d'eau en regardant l'eau de surface, mais aussi l'eau souterraine avec des modèles mathématiques pour voir dans des horizons de 50 ans, de 100 ans, en fonction des scénarios que Uranos nous donne, des scénarios de changement climatique, puis des scénarios de changement d'utilisation du territoire aussi, qu'est-ce qui va se passer avec notre niveau d'eau? Je te donne un exemple. Mm-hmm. S'il fait plus chaud puis qu'il pleut moins, bien, le niveau d'eau, globalement, il va descendre. Mm-hmm. Mais s'il fait plus chaud mais qu'il pleut beaucoup, bien là, le niveau d'eau, il risque d'augmenter. Si je coupe toutes les arbres autour de mon lac, mais là, j'enlève l'aspect de drainage puis de rétention de l'eau par les arbres, puis l'eau, le niveau de mon lac va augmenter. Donc, tous ces scénarios-là peuvent nous amener un résultat final qui est différent.
Donc, à la fois l'effet des changements climatiques, mais aussi des activités humaines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, là, tu parlais, si on enlève les lacs, ça l'équivaut à faire une coupe à blanc.
Si on enlève les arbres.
Si on enlève les arbres, c'est l'équivalent un peu de faire une coupe forestière près d'un milieu humide.
Oui, puis c'est pas juste des coupes, c'est aussi des maladies par les insectes. Mmh. On entend beaucoup parler de la grille du frêne, qui est un insecte parasite qui tue en fait les frênes à Montréal. On en a coupé des centaines et des centaines, mais dans nos forêts aussi, c'est ça qui se passe en ce moment, les arbres meurent. Et ce processus-là, bien, ça va changer les espèces d'arbres. Puis c'est pas toutes les... En fonction de l'essence d'arbres, on n'a pas le même résultat de qu'est-ce qui se passe au niveau du sol, de l'hydrologie. Donc, tous ces impacts-là, on les modélise, puis on regarde qu'est-ce qui va se passer. Mais outre le niveau d'eau, il y a aussi trois paramètres qu'on regarde, c'est l'intensité, la fréquence et la durée des inondations.
OK.
Donc, à quel point c'est fort, combien de temps ça dure, puis est-ce qu'il y en a souvent? Ça va affecter quel type de milieu humide je vais retrouver sur les rives de mon lac. Par exemple, dans les grands lacs, les inondations sont fortes, sont fréquentes, puis durent longtemps. Fait qu'on a surtout des marais. Dans les petits lacs, on n'a pas ça. Fait qu'on a surtout des tourbières, puis des marécages, parce que les plantes ligneuses, comme les arbres puis les arbustes, peuvent rester là. Ils vont pas se faire laver par des inondations qui vont venir les déraciner. Ils ont le temps de pousser, s'enraciner, puis de rester là. Mais là, si on vient augmenter la fréquence, la durée et l'intensité des inondations dans nos petits lacs, est-ce qu'on va pas créer des marais à la place? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est des questions que moi, je me pose dans le cadre de mon projet.
Pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir s'il va y avoir une sorte de milieu humide plutôt qu'une autre?
Parce que, comme je le disais tantôt, ils ne vont pas nécessairement nous apporter les mêmes services et les mêmes fonctions écologiques. En gros, quand on quantifie les fonctions et les services écologiques, on se base essentiellement sur des variables. On va dire, cette variable-là apporte ce service-là. On va utiliser des équations mathématiques parfois, ou on va juste prendre directement une variable, puis on va dire, j'ai plus de ce service-là quand j'ai plus de cette variable-là. Puis, ces variables-là, c'est essentiellement les mêmes qu'on utilise pour classer les milieux humides. Donc, nécessairement, différents types de milieux humides vont apporter différentes fonctions et services écologiques. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé dans la littérature. Souvent, les études qui vont se pencher sur la quantification des services vont amalgamer les milieux humides. Donc, ils vont dire, les milieux humides, ils font toutes la même affaire. Parce que là, on se met à comparer des milieux agricoles, des milieux humides, des milieux forestiers, parce que c'est ça notre question de recherche. Il y a peu d'études qui vont comparer les types de milieux humides, mais pourtant, la loi, c'est ça qu'elle nous demande de faire, œil pour œil, dent pour dent. j'enlève une tourbière, je ne peux pas la remplacer par un marécage.
Mm-hmm.
Ce n'est pas les mêmes fonctions, ce n'est pas les mêmes services.
Mm-hmm.
Fait qu'on manque de connaissances à ce niveau-là. Puis c'est pour ça que nous autres, on compare qu'est-ce qui se passe dans nos différents types de milieux humides. Puis ce qu'on voit pour l'instant dans nos résultats, c'est flagrant. Il y a des différences énormes, surtout au niveau de la biodiversité.
Mais là, dis-moi pas qu'on va perdre nos tourbières, là, parce que si on perd les tourbières, ben on perd justement le stock qu'on a parlé de carbone qui pourrait s'échapper vers l'atmosphère et contribuer encore une fois à augmenter les niveaux de CO2. Dis-moi pas ça.
Mais je te dirais que sur les bords des lacs, les tourbières sont résilientes.
OK, super.
Parce qu'elles sont souvent sur des îlots flottants.
Okay.
Donc, c'est de la tourbe, en fait, qui n'est pas nécessairement enracinée jusque dans le fond du lac, mais elle va flotter. Donc, si le niveau d'eau du lac monte ou descend, mais ce tapis-là, il va descendre puis monter lui aussi.
Pour ceux qui connaissent la station de biologie des Laurentides, est-ce que c'est ça qu'on retrouve autour du lac G?
Oui, si tu marches sur le bord du lac G, ça va. Plus tu vas loin, plus tu as des chances de whoop, disparaître ou tomber parce que la tourbe va s'affaisser sous tes pieds parce qu'il n'y a plus de support. C'est ce qui rendait mon échantillonnage parfois difficile parce que j'accède à mes cides à partir du lac, dans une chaloupe.
Mm-hmm.
Donc, quand tu viens pour accoster sur le bord d'une tourbière, si tu débarques au bout, blop, tu cales puis tu tombes au fond de l'eau. Fait qu'il faut que tu réussisses à trouver des petits chenals qui ont été créés par l'activité des castors. Ils vont toujours passer au même endroit, fait que ça crée des petits chenaux puis tu peux passer dedans pour réussir à sauter sur une motte de tourbière semi-solide.
Mais là, tu nous parles de ton terrain, puis j'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de me transporter comme si j'étais dans un milieu humide. Ça ressemblait à quoi, tes journées de terrain?
Mes journées de terrain commençaient très tôt, au grand malheur de mes stagiaires. À 6h du matin, on est dans le bateau. On fait à peu près une trentaine de minutes de bateau pour se rendre à notre premier site. Une fois qu'on arrive à notre site, ben là, on amarre notre bateau, c'est-à-dire qu'on l'attache après une motte de tourbe ou après un buisson quelconque. On saute dans la tourbière avec nos salopettes de pêche, notre imperméable, notre chasse moustique, notre filet à insectes. Donc, notre beau kit très fashion de biologiste.
C'est ça, parce que tu me dis milieu humide, 6h le matin, moi je pense directement à moustique.
Oui. Ben, d'ailleurs, j'avais une stagiaire qui... Je donne toujours une petite liste de matériel et d'équipements à voir sur le terrain quand on va dans les milieux humides. Tu sais, bottes de pluie ou là, dans notre cas, salopettes de pêche parce qu'il y a beaucoup d'eau. Des gants, un chapeau, un imperméable, une chasse moustique, un filet insecte. Puis cette personne-là s'était dit, je pense pas que je vais avoir besoin du filet insecte. Je suis quand même résistante aux insectes. Et le jour suivant, elle est sortie de la réserve de Canuck Nature pour aller dans un magasin grande surface en acheter un parce qu'elle dit, je fais pas une autre journée comme ça, c'est invivable.
Wow!
Fait que c'est une composante de ton terrain.
Oui. Et c'est aussi quelque chose que j'ai échantillonné. Donc,
ouais.
Comme 10 services écologiques, à quel point est-ce que c'est désagréable d'être dans un milieu humide à cause de l'abondance d'insectes piqueurs?
OK.
Et pour faire ça, je servais de snack. Donc, pendant 5 minutes, je me tenais debout, sans chasse moustique, en portant des vêtements de couleur identiques à chaque jour, à la brunante, en attendant que les insectes soient attirés par mon doux parfum. Et au bout de 5 minutes, avec un filet, j'attrapais ce qui tournait autour de ma tête. Puis je devais pas les chasser, là. Je pouvais pas me taper sur les bras là, pour tuer les insectes. Et après ça, je les endormais avec un petit produit. Puis après ça, avec une pince épilée, ben, je les comptais.
Mais est-ce que c'était prévu ou c'est quelque chose que t'es venu...
C'est l'idée de mon co-directeur et je le remercie beaucoup pour cette idée. On sent le sarcasme.
Ça, on remercie Raphaël Proulx à l'UQTR.
Oui. Mais je tiens à dire que j'ai fait tout l'échantillonnage moi-même, donc aucun stagiaire ne souffert dans cet échantillonnage.
J'adore. Puis en plus, tôt le matin, oui, il y avait les moustiques, mais ça devait être magnifique, les sons qu'on entend le matin, quand c'est super calme, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes chanteurs, un peu comme qu'on devait entendre dans ton enregistrement audio pour LACFAS. LACFAS, qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement du savoir.
Est-ce qu'on pourrait même en écouter maintenant?
Ben oui, puis moi, en plus, j'en écoute quand je travaille à la maison. C'est au lieu d'écouter de la musique, des fois, j'écoute mes insectes puis mes oiseaux chanter.
Mais c'est vrai, parce que moi, sur Spotify, je cherche « bruit de la nature » ou « bruit de pluie », fait que c'est super intéressant que toi, tu puisses écouter tes propres bruits.
J'ai 700 gigs de chants d'oiseaux et d'insectes, fait que ça va. J'ai jamais réécouté deux fois la même chanson, entre guillemets.
Allons-y. Thank you.
que tu me racontais une fois, c'était que c'était tellement fort comme bruit durant le terrain que tu avais du mal à entendre ce que ta stagiaire disait.
Oui, donc au mois de mai, les rainettes sont en période de reproduction et vont donc chanter très fort pour attirer leurs partenaires. Et le bruit de rainettes, c'est un petit bruit aigu, très strident. Et là, on était dans une tourbière qui est dans une petite baie. Et c'est tellement fort que je devais crier à mes stagiaires pour qu'elles comprennent ce que je leur demandais de faire. Donc, c'est intense.
Mais c'est une vraie mélodie à mes oreilles, par exemple. C'est le fun qu'on puisse l'entendre, que tu nous permettes de l'entendre, parce que évidemment, on habite tous à Montréal en ce moment. Donc, l'accès au milieu humide, l'accès à la nature, elle est plus difficile. Donc, je te remercie pour ça.
Bien, ça fait plaisir.
Est-ce que tu pourrais nous faire un bruit de rainette?
Oui, s'il te plaît.
Oh, je vais essayer, mais dans le fond, imagine 100 rainettes qui font en même temps. On va l'avoir.
Je me sens en nature.
Totalement. Fait que c'était ça à matin, à 6h du matin dans le...
Avec les plongeons Hubert qui font «
Fait que c'est quand même une chance que tu aies pu échantillonner ce milieu-là.
Ah, tout à fait. Puis Kenok, c'est vraiment un... C'est un écosystème qui... C'est vraiment un point chaud de biodiversité. Pour te donner un exemple de façon comparative, là, les milieux humides que j'ai échantillonnés à la maîtrise de Laval, j'avais en moyenne une vingtaine d'espèces par site. Puis au total, sur toute l'île de Laval, j'avais 250 espèces. Sur un lac de 12 km carrés, j'ai 350 espèces et en moyenne, il y en a une centaine par site.
C'est énorme!
Oui, mais c'est énorme.
C'est toi qui les identifies?
Donc, les plantes, les insectes chanteurs, le zooplancton et les poissons, c'est moi et mes stagiaires qui les avons échantillonnés.
Rien de moins?
Oui. Bien, j'ai appris beaucoup. Hein. Tu sais, moi, j'avais jamais identifié un poisson avant de poser mes nasses là, dans le cadre de mon doctorat. Puis j'avais la chance d'avoir un stagiaire de l'UQO qui en avait fait beaucoup. Mais pour les oiseaux, on a dû faire appel à un expert parce que moi, j'en suis pas une. Puis donc, on a fait appel à Émile Brisson, qui est le fils de Jacques Brisson, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, Émile a écouté nos enregistrements, identifié les oiseaux qui chantaient, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut encore faire de façon automatisée, parce que plusieurs oiseaux qui chantent en même temps, ça prend plusieurs réécoutes là, avant d'avoir toutes les espèces qui chantent.
Mais en plus de ça, les oiseaux, ils ont plusieurs cris ou chants eux-mêmes, donc oui. Ça prend vraiment un expert, en fait.
Une oreille avertie aussi, parce que, tu sais, un chant de canard, là, on n'en entend pas souvent, hein, fait que réussir à identifier des oiseaux aquatiques aussi, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous.
Puis là, tu avais tout ça. Donc, tu avais tes champs d'oiseaux, d'insectes, tu avais caractérisé tes tourbières. Bref, tout ça, ça te donnait énormément de données. Donc, ça se traduit en chiffres, en fait.
Oui, c'est vraiment beaucoup de données. Puis on a aussi plein de données environnementales, de données qu'on sort, soit sur le terrain, par exemple, la quantité de matière organique dans le sol, mais aussi beaucoup de données extraites à partir de données cartographiques. Donc, on utilise des logiciels qui nous permettent de visualiser les données et d'extraire des variables, des valeurs pour nos sites. Par exemple, la quantité de milieux humides dans le bassin versant de notre site, la quantité de cours d'eau, est-ce qu'il y a des routes à proximité, c'est quoi la pente dans mon milieu humide. Donc, on a toutes ces variables-là. Je ne sais pas combien j'en ai, là. Au moins une centaine de variables différentes.
Mais c'est ça. Donc, pour toi, concrètement, tu te retrouves avec tout ça dans un énorme fichier Excel avec que des chiffres ou des catégories, donc des variables qualitatives, par exemple.
Oui. Fait que c'est un gros travail de gestion de base de données. Donc, moi, l'été, je suis sur le terrain, mais l'hiver, je suis derrière mon ordinateur à travailler dans différents logiciels pour analyser tout ça.
Mais tu m'as pas dit que tu n'aimais pas les maths?
Oui, je sais. Ben, c'est ça. Je me suis ramassée à faire la branche de la biologie qui fait le plus de mathématiques. Donc, au quotidien, je fais énormément de statistiques. Et j'en suis maintenant friande. Les statistiques, ça va nous aider à mettre un chiffre sur ce qui se passe dans la nature puis à comprendre différents phénomènes. Tu sais, quand on se pose la question, est-ce que ça donne plus de X puis ça donne plus de Y? Mais il faut trouver une façon de quantifier ça. Puis moi, le genre de statistiques que je fais, ça s'appelle des statistiques multivariées. Donc, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de variables différentes. Puis je m'intéresse à comprendre les interactions entre ces variables-là. Donc, est-ce que si j'ai plus de diversité d'oiseaux, j'aurai nécessairement plus de diversité de plantes ou l'inverse? Donc, c'est un sujet important dans mon projet, c'est de comprendre les synergies et les compromis entre les fonctions et services écologiques dans les types de milieux humides.
Qu'est-ce que tu veux dire par synergie?
Synergie et compromis, c'est une approche là, qu'on mm-hmm. utilise. Puis une synergie, en fait, je te donne un exemple. Dans une tourbière, je vais avoir un service de stockage de carbone qui est très fort. Dans cette tourbière-là, je pourrais aussi avoir un stockage de l'eau aussi qui est très fort. Donc, on va dire que ces deux services-là sont en synergie parce qu'ils sont concomitants dans l'espace ou dans le temps.
Mais ça ne veut pas dire que un cause l'autre.
Pas nécessairement. C'est pas un lien de causalité. C'est vraiment juste une corrélation. Ils sont là ensemble. On est en synergie pour ces deux services-là parce que tu pourrais dire, ben j'ai beaucoup de biodiversité d'oiseaux et j'ai beaucoup de stockage de carbone. Puis là, essaie de m'expliquer le lien entre les deux si c'est un peu ténu. Fait que c'est pas une causalité, c'est juste une corrélation. Un compromis, c'est au contraire, c'est, mettons, je vais dire, OK, j'échantillonne 30 tourbières, puis là, j'ai tout le temps beaucoup de stockage de carbone, beaucoup de stockage de l'eau, sont en synergie, mais j'ai jamais de grande biodiversité de plantes. Donc là, j'ai un compromis entre le stockage de carbone et la biodiversité des plantes, parce qu'ils ne sont jamais concomitants dans le temps et dans l'espace.
Donc, on pourrait penser que si on avait moins de stockage de carbone, on aurait un peu plus peut-être de biodiversité de plantes.
S'ils sont en compromis, oui, mais ils peuvent aussi être en aucune relation.
Mm-hmm.
Ils peuvent aussi ne pas du tout être reliés. Mais l'idée, en fait, c'est de comprendre aussi, en fonction des types de milieux humides, qu'est-ce que je maximise, puis qu'est-ce que je minimise, puis c'est quoi les interactions entre toutes mes variables, parce que ça nous aide ultimement à comprendre qu'est-ce qu'on conserve quand on vise une affaire. Si je suis une municipalité, puis que moi, ma principale préoccupation, c'est de protéger mes citoyens contre les inondations, fait que je vais cibler les sites qui vont maximiser ce service-là. Bien, cette approche-là, ça nous permet de savoir, bien, systématiquement, quel service je vais perdre si je vise la protection contre les inondations. Donc, c'est ça l'idée de l'approche, c'est de pouvoir, après ça, prendre des décisions de conservation plus optimales, plus éclairées, qui permettent d'avoir une espèce de bouquet de services qui est diversifié aussi, qui répond à tes attentes. Donc, par exemple, les municipalités sont amenées à faire des plans de gestion de leur territoire, donc doivent décider qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui l'est moins, où ce qu'on conserve, où ce qu'on détruit. Faut qu'ils prennent des décisions assez importantes, puis ils doivent regarder bien, de quoi ils ont besoin en termes de services écologiques. Si une municipalité, par exemple, dit bien, moi, ce dont mes citoyens ont besoin, c'est la protection contre les inondations. Je vais cibler les milieux humides qui vont maximiser ce service-là, puis toutes les autres, je vais les oublier. Bien, avec cette approche-là, ça nous permet de comprendre, mais systématiquement, qu'est-ce qu'on va oublier, justement? Qu'est-ce qui va être mis de côté? Qu'est-ce qu'on va perdre? Peut-être que c'est des services qui sont extrêmement importants qu'on va perdre, puis on ne le savait pas.
Surtout au long terme, peut-être.
Oui, exactement. Puis c'est l'idée de mon projet. C'est qu'après ça, on intègre les impacts des changements climatiques, comme je le disais tout à l'heure, avec les changements de niveau d'eau. Si on change nos types de milieux humides, on change notre rapport en fonction et services écologiques. Qu'est-ce qu'on va avoir comme fonction et services plus tard? Et de quoi on va avoir besoin pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos besoins de demain soient répondus encore dans 100 ans? Puis pour répondre à cette question-là qui est compliquée, bien, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de statistiques.
Qui est finalement une façon quantitative de voir si une variable a un effet sur les services.
Voilà. Puis après ça, ça te permet de comprendre qu'est-ce qui se passe si cette variable-là change. Mm-hmm. Par exemple, le niveau d'eau.
Mm-hmm, mm-hmm.
Puis toi, t'as vu quoi?
Bien, j'ai plusieurs résultats déjà qui sont ressortis dans le cadre de mon projet. Le premier résultat que j'ai, c'est qu'on a fait des simulations de changement de niveau d'eau. Donc, on a regardé si on augmente ou si on diminue le niveau d'eau du lac. Est-ce que la typologie, donc les classes de nos milieux humides vont changer? Est-ce qu'il va y avoir des transitions? Mm-hmm. Ou si est-ce qu'on va avoir des pertes de superficie de milieux humides qui vont se convertir en écosystème terrestre? Puis en gros, ce qu'on a vu, c'est que les tourbières, comme j'ai dit tantôt, sont super résilientes parce qu'ils sont sur des tapis flottants, donc vont suivre le niveau d'eau. Mais les marécages arborés, eux autres qui sont situés sur le bord des pentes, vont avoir tendance à se transformer en forêt si on diminue le niveau d'eau. Donc, en fonction du scénario de changement de niveau d'eau, on n'a pas les mêmes résultats non plus. Là.
Puis qu'est-ce que ça avait comme implication?
Bien, ça dépend aussi de la biodiversité que ces écosystèmes-là arborent. Donc, les marécages vont maximiser la biodiversité des plantes et vont maximiser aussi certains autres services. Donc, on va perdre ces services-là, cette biodiversité-là de plantes. Puis là, j'ai commencé à faire des analyses au niveau de mes services écologiques, justement. On a des résultats intéressants, mais le plus intéressant, selon moi, c'est celui au niveau de la biodiversité. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un service qui est difficile à quantifier. Puis nous, on a vraiment utilisé plein de métriques différentes. Puis ce qu'on voit, c'est que ça pointe dans toutes les directions. C'est-à-dire que si tu veux conserver la biodiversité des oiseaux, ben là, il va falloir que tu cibles les tourbières. Si tu veux conserver la biodiversité des plantes, il faut que tu cibles les marécages arborés. Si tu veux conserver les poissons, mais là, c'est les marécages arbustifs. Donc, chaque type de milieu humide va maximiser différents types de biodiversité.
Donc, faut tout les conserver.
C'est drôle parce que c'est exactement les réactions que j'ai eues quand j'ai présenté au congrès de l'Association des biologistes du Québec. On m'a dit, ben là, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut tout conserver. Je dis, non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut choisir un bouquet de sites qui va te permettre d'avoir un ensemble cohérent de biodiversité, puis choisir en fonction de ça. Ce que mon projet a permis de faire, c'est de comprendre que chaque type de milieu humide ne va pas apporter la même chose. Fait que tu ne peux pas juste cibler en fonction du type de milieu humide. Il faut que tu aies une autre façon de voir les choses si tu veux avoir une méthode de gestion du territoire qui est optimale.
Mais on peut tous entendre que dans un idéal, on les conserverait tous?
Oui, dans un monde idéal, effectivement.
Puis ces résultats-là, j'imagine que tu les as publiés ou sont en processus de publication dans une revue scientifique?
Oui, les résultats de nos simulations de changement de niveau d'eau sont déjà publiés dans un article.
Félicitations!
Merci! Puis là, je travaille à la rédaction du deuxième article sur justement la comparaison de l'apport en services écologiques de différents types de milieux humides.
Mais d'ailleurs, parenthèse, si jamais ça vous intéresse, cet article-là, on a une version vulgarisée où Caudrianne a répond à des questions d'entrevue sur cet article-là sur notre site web des biologistes chercheurs. Je vais le mettre aussi dans la description. Puis parallèlement à ça, je sais que toi, Caudrianne, tu as vraiment une fibre pour la communication. Puis on pourrait conclure un peu cet épisode-là sur ça parce que je pense que c'est quelque chose que tu veux de plus en plus faire. Donc, prendre ta science et la communiquer.
C'est comme si ton double deck en littérature et sciences t'avait suivi jusqu'à maintenant.
Wow!
Bien, c'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai longtemps pensé, coudonc, est-ce que j'ai perdu mon temps à étudier la littérature? Puis plus j'avance dans mon parcours, plus je me rends compte qu'en fait, ça m'a vraiment servi de faire ça, puis ça s'intègre très bien dans le travail que je fais. Donc, quand on est en recherche, on est souvent appelé là, à communiquer là, notre science dans des congrès, etc. Puis les premiers congrès auxquels j'ai assisté, j'ai fait « Mon Dieu, c'est bien le fun, j'aime ça faire ça, tu sais. » Moi, j'aime ça faire du graphisme, monter des PowerPoint, écrire des textes. Pour moi, c'est comme un peu du théâtre, là, quand je vais présenter mes résultats, là, parce que t'écris un texte, puis tu fais une présentation, tu veux que ce soit dynamique, là, tu cherches des réactions de ton audience. Fait que moi, je pense toujours à ces éléments-là quand je fais une présentation, quand je fais un poster, je pense au contenant, au contenu, à la façon, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent, comment je veux que ce soit perçu. Puis c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, puis de plus en plus, je me rends compte, coudonc, est-ce que je pourrais pas en faire une carrière, peut-être?
Mais j'ai l'impression que la communication scientifique et la vulgarisation, c'est quelque chose qu'on demande de plus en plus aux chercheurs. Oui. C'est assez récent, en fait, cet engouement-là pour communiquer les résultats de la recherche. Puis ça, je trouve ça super important parce que premièrement, le financement qu'on reçoit en tant que chercheur, en tant qu'étudiant-chercheur, il y a une bonne partie qui vient du financement public. Donc, on a un peu ce devoir-là de redevance.
Moi, je me rappelle aussi, en 2017, j'étais allée dans une conférence sur la biodiversité et il y avait un panel qui rassemblait des chercheurs et des journalistes qui discutaient justement de communication scientifique. Et ce qui ressortait, c'était les journalistes qui disaient « ben, c'est pas assez clair le message que vous nous dites, fait que c'est difficile pour nous autres de bien transmettre votre message. » Puis les scientifiques, ce qu'ils disaient, c'est « ben, on n'a pas le temps, puis c'est trop de job. » Puis encore aujourd'hui, dans un congrès où je suis allée là, un mois, c'était le même message. Donc, on n'a pas encore adressé ce problème-là de façon adéquate. Même le ministère commence à engager des gens pour faire ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des lacunes importantes au niveau de la communication, de la science, de la vulgarisation.
Mais c'est ça, je trouve que le pont entre la recherche et le journalisme est flou.
Oui.
Si on me demande de nommer une job qui fait ça, je ne serais pas capable.
Un journaliste scientifique, il y en a de plus en plus.
Moi, je vois ça plutôt du côté du journalisme. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un poste équivalent du côté des chercheurs?
Mm-hmm.
Je pense, je sais pas.
Non, mais il commence à y en avoir, donc plus j'ai commencé à faire de la vulgarisation, plus j'ai commencé à côtoyer des gens qui faisaient ça, qui en faisaient leur emploi là, à temps plein. Et récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui s'est fait engager par son département à l'Université de Montréal pour faire de la communication de ce qui se passe en sciences dans son département. C'est ça, sa job. Fait que ça commence à être mis de l'avant. Il y a des YouTubers aussi qui font beaucoup ça, puis que c'est des scientifiques, des chercheurs à la base, qui deviennent, qui tendent vers le journalisme scientifique, donc qui partent du chercheur, qui vont vers le journalisme.
Mm-hmm. Oui, parce qu'en fait, c'est difficile de demander à un chercheur de s'adresser complètement à sa science, de faire beaucoup de recherches, de s'investir.
D'enseigner.
C'est ça, d'enseigner, d'avoir plusieurs...
d'être sur des comités.
C'est ça, des tâches administratives.
Ouais.
Puis en plus de ça, d'être un bon vulgarisateur, vulgarisatrice scientifique et de prendre les devants, prendre des initiatives, construire des projets, parce que ça demande énormément de temps. Donc, l'intermédiaire, il est super important. On soulève quand même quelque chose qui a été dit il y a longtemps et qui est encore essentiel aujourd'hui. Donc, il nous faut cette personne-là qui lit la science aux médias, aux journalistes. Puis toi, Audriane, tu as un peu fait le pont entre les deux parce que tu as communiqué ta recherche, donc ton projet de doctorat, dans un podcast à l'ACFAS, puis tu as parlé de ton projet des milieux humides qui s'appelait « La symphonie des milieux humides ».
Oui, bien en fait, je me suis rendu compte qu'avec toutes les gigs de données, mes 700 gigs de données de sons et d'oiseaux, il devait bien y avoir une façon de les valoriser. Puis je suis tombée sur le concours de vulgarisation de l'ACFAS, puis là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs formats qu'on pouvait utiliser. Puis moi, je me suis dit, ben let's go, je vais opter pour le format audio parce que j'ai plein de matériel que je pourrais valoriser comme ça. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on voit pas souvent, des gens qui enregistrent les sons de la nature. Fait que ça a probablement aussi créé un certain engouement autour de l'idée aussi, le concept était intéressant, était nouveau. Et encore une fois, je reviens sur la métaphore du buffet chinois. Pour moi, la vulgarisation, c'est la même chose. J'aime beaucoup exploiter tous les médiums différents, donc des vidéos, de l'audio, des présentations PowerPoint, de l'enseignement, des ateliers avec les enfants, avec le grand public. Donc, j'aime ça toucher à tout.
Donc, il faut vraiment que tu t'adaptes à ton public, en fait.
Oui, vraiment. Ça, c'est probablement une des choses les plus importantes en vulgarisation. Modeler ton message en fonction de ton public. Donc, quand je travaillais dans des écoles pour donner des ateliers scientifiques avec des enfants de 6 ans, bien, c'est sûr que mon message n'était pas le même qu'avec des habitués du jardin botanique qui veulent en apprendre plus sur le milieu humide.
Mm-hmm.
Donc, ça m'amène à réaliser toutes sortes de projets, à rencontrer toutes sortes de personnes, puis je me rends compte justement que cette communauté-là est très intéressante, puis il y a des belles opportunités, là.
Fait que tu envisages ça de plus en plus, j'imagine, dans le futur.
Oui, je commence à y penser, puis je me dis, bon, peut-être que là, on n'arrête pas de dire qu'il y a un problème, mais ouvrons des postes pour faire ce genre de choses-là. Et je serai là, en attente de vos postes.
Et si tu avais, pour terminer, des messages clés, on parle de vulgarisation, on parle de messages, des messages clés sur les milieux humides ou la communication ou ton parcours en recherche, donc libre à toi, qu'est-ce que tu nous dirais?
Bien, je te dirais qu'en fait, mes messages clés vont dépendre de à qui je m'adresse. Donc, si je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, je pense que mon message clé, ce serait ouvrez les yeux, il y a plein de milieux humides autour de vous, puis il y a beaucoup de diversité dans ces écosystèmes-là. Mettez-les pas tous dans le même panier parce qu'ils font pas toutes la même chose et ils vous rendent plus de services que ce que vous pouvez soupçonner. Puis si je m'adressais davantage aux professionnels, aux biologistes, aux décideurs qui gèrent le territoire, la première chose que je dirais, c'est chapeau. Vous faites un travail exceptionnel. Travailler sur les milieux humides, c'est très difficile et je vous félicite de réussir à accomplir tout ça. On vous en a mis beaucoup sur votre assiette dans les dernières années, puis vous accomplissez la tâche quand même très bien.
Avec peu de moyens.
Oui, avec peu de moyens. Puis par rapport à mon projet, ce que je leur dirais, c'est essayer de réfléchir de façon plus approfondie à l'impact de vos choix méthodologiques. Comment vous décidez de choisir quel site vous priorisez ou pas, parce que c'est des choses qu'on a davantage à faire en tant que biologiste avec la nouvelle loi. Et donc, ce que mes données nous disent, c'est que ces choix-là ont des impacts majeurs et qu'il faut qu'on essaye de prendre ces décisions-là en considérant aussi les impacts à venir des changements climatiques. Donc, de garder ça en tête quand vous allez décider d'où vous allez mettre vos priorités.
Audriane, merci. Merci pour ton temps. Est-ce qu'il y a des moyens que, si nos auditeurs, nos auditrices sont intéressés d'en apprendre un peu plus sur les milieux humides, sur toi, s'ils veulent te contacter, c'est quoi les lignes que tu nous fournis?
Comme je disais tout à l'heure, d'ouvrir les yeux puis aller voir ce qui se passe autour de vous au niveau des milieux humides. Je vous invite à aller consulter la cartographie interactive des milieux humides du Québec qui est réalisée par Canard Illimité, qui est un organisme qui a littéralement cartographié les milieux humides à travers les basses-terres du Saint-Laurent et qui commence à le faire à travers tout le Québec. Donc, allez voir qu'est-ce qu'il y a à proximité de chez vous, allez consulter cette carte-là et allez les voir, ces milieux humides-là, allez marcher, explorer, vous mouiller les pieds un petit peu. Puis j'ai beaucoup parlé aussi de Canuck Nature, là où je fais mes travaux de terrain. Bien, ils ont une page web aussi, c'est l'Institut Canuck, l'Institut de recherche. Donc, en ce moment, il y a plus de 11 projets de recherche qui ont lieu en même temps à Canuck Nature. Donc, je vous invite à aller voir ce qui se passe à Canuck. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Si vous avez la chance de le visiter, allez-y, vous n'en reviendrez pas.
Et si on veut te rejoindre, toi, est-ce que tu as des réseaux sociaux?
Oui, vous pouvez me suivre sur Twitter, Wetland Audrey, ou sur LinkedIn aussi, pour une page un peu plus professionnelle.
Parfait, on fait ça. Merci.
Merci.
Merci les filles.